Vous écoutez un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
Avant que Regarde le monde sorte, là, on écoutait l'album avant que le monde puisse l'écouter, puis il était comme Mais là, Aimer le mal, t'avais pris la décision que c'était, ça allait parler de politique.
Exact. Puis là, ça, comme ça a été très, très assumé, puis que j'avais un petit peu évacué les doutes puis les inquiétudes par rapport à ça, ça a fait un album qui a eu un impact majeur au Québec, je pense, pour cette raison-là, parce qu'il n'y avait plus d'ambiguïté.
Je m'appelle Fabiola Nerva-Aladin, je suis comédienne, enseignante, chanteuse, mais surtout mélomane. Je vous présente une série balado qui nous plonge dans l'histoire d'albums marquants de la musique québécoise. Dans cet épisode, on s'intéresse à Aimer le mal des Vulgaires Machins, qui s'est écoulé à plus de 15 000 exemplaires, un exploit pour un album de punk rock québécois. L'histoire des Vulgaires Machins est intimement liée à Granby, une ville située à une heure de route au sud-est de Montréal. Marie-Ève Roy et Guillaume Beauregard se sont justement rencontrés là-bas, à la polyvalente Joseph-Herman Leclerc.
Je pense qu'à cette époque-là, Granby reflétait beaucoup ce qui se faisait au Québec, c'est qu'il y avait beaucoup de bandes punk influencées par le New School, Côte-Ouest... Mais le skate punk, finalement, il y en avait beaucoup au Québec, mais il n'y en avait pas vraiment qui chantaient en français. Je pense que c'est ça qui nous a beaucoup motivés, là, tu sais, de sentir qu'on était les premiers à faire quelque chose. Parmi les premiers, mettons, parce qu'il y avait quand même les Marmottes aplaties, il y avait les Secrétaires volantes, mais on était plus dans une affaire indie rock ou rock and roll qu'une approche plus punk mélodique. Comme on avait envie de faire.
Non, mais il n'y avait pas de compagnie, de maison de disques vraiment axée sur le punk rock, mais tout le monde jouait du punk rock. Là. Je veux dire, on allait jouer à Epiphany ou à Rouen ou à... Tu sais, tout le monde... les salles étaient pleines, puis il y avait beaucoup... C'était vivant, cette scène-là, quand même. On a peur de ce qu'ils pensent.
On a peur de nous-mêmes. Les Vulgaires Machins enregistrent un premier album dans le Salon de Guillaume à l'été 1996. C'est fait de façon très naïve, avec une console analogique de 4 pistes. Les membres du groupe sont motivés. Ils ont une vision collective de leur projet qui est très « do it yourself » ou « fais-le toi-même ».
Il y avait une insouciance, je pense. C'est comme on veut faire ça, puis on fait ça.
Mais c'est drôle parce que avec le recul, je me rends compte à quel point on était allumés, on faisait tout nous-mêmes. C'était vraiment ça, la philosophie DIY, mais je pense pas que c'était si conscient que
non,
ça.
Non, c'est ça que juste, je l'ai dit.
C'était le désir de faire les choses, puis d'avancer une étape à la fois, puis on n'attendra pas d'avoir une maison de disques qui chapeaute le projet pour enregistrer.
Non, mais en fait, on savait même pas que ça prenait une maison... Tu sais, vraiment insouciant au fait de... On ne sait pas que ça prend une maison de disques pour sortir de quoi. C'était comme... Tu sais, au début, là, notre premier album, on savait pas qu'il fallait tourner nos guitares.
Ouais, on
connaissait
rien.
On avait juste le feu pour faire ça.
On savait surtout pas que quand tu as fait un premier jet pour écrire des paroles d'une chanson, tu as le droit de les relire puis de les changer. On savait pas ça, nous autres. Fait qu'on écrivait des paroles, puis c'était pourri, puis ben c'est ça les paroles, que voulez-vous?
Même si ça a donné des petits bijoux de paroles dans le premier album, heureusement, Guillaume a voulu autre chose, écrire des chansons plus politiques. On l'entend dans des pièces comme Petit Patapon et Le ciel est vide sur le deuxième album Regarde le monde. Il y a une invitation qui va motiver le groupe à emprunter cette voie, un spectacle manif en marge du Sommet des Amériques à Québec. Les Vulgaires Machins font la première partie de Propagandy, un groupe de punk militant pour souligner leur opposition à une zone de libre-échange économique.
Ça a été important, je trouve, dans notre cheminement parce que ça a été une rencontre avec Propagandy qui nous a éveillé beaucoup sur la possibilité que la musique soit autre chose que juste un divertissement, que ça soit juste un endroit où on se rassemble pour trasher puis acheter des T-shirts. Puis là, il y avait des livres, puis il y avait toute une philosophie en arrière. Puis moi, j'étais bien, bien fasciné par cette démarche-là de Propagandy. Puis ça nous a éveillé à quelque part sur l'engagement politique à travers la musique. Puis je pense que c'est pour ça que ça s'est reflété, en partie pour ça que ça s'est reflété beaucoup quand on a fait l'album Aimer le mal, où pour moi, il n'y avait plus aucun compromis à faire. Puis j'avais la conviction que c'était ça, la voie à prendre. Puis c'est ça que j'avais envie de faire par rapport au texte, en tout cas. Puis après ça, ça a été plusieurs années à réfléchir à cette question-là. Comment on fait pour politiser sans que ça devienne lourd ou moralisateur? Comment on fait pour politiser un groupe puis faire en sorte qu'on apporte cet élément-là vivant d'engagement, de manifestation, etc.? On a, à l'image de Propagandy, on est allé rencontrer Éco-Société, mais j'ai pris contact avec plein de petits canards comme le couac, le mouton noir. On était intéressé à amener un peu ce milieu-là vers nous et nous d'aller vers ce milieu-là de mouvance plus activiste ou engagée socialement. Fait que ça a beaucoup teinté Aimer le mal. C'était ça que Vulgaire Machin allait devenir. Je t'en parle puis j'ai des frissons parce que depuis cette époque-là où ça s'est défini puis ça s'est concrétisé, ça n'a jamais arrêté. C'est demeuré la trame de fond de toutes nos réflexions quand on fait de la musique. Pourquoi on fait un album? À quoi ça sert? Comment on se positionne? Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ça pour justement éviter d'être encabanés dans une démarche strictement commerciale? Ou...
On n'était plus... comment je disais tout à l'heure?
On n'était plus insouciants.
On n'était plus insouciants.
Coup.
Après le Sommet des Amériques, les Vulgaires Machins préparent l'enregistrement de leur troisième album en continuant de faire des spectacles partout au Québec. À l'été 2002, ils sont prêts à entrer en studio. Leur ami et collaborateur, le réalisateur Pierre Rémillard, les invite à Saint-Zénon dans Lanaudière au dorénavant mythique Studio Wild. Des artistes comme les Cowboys Fringants, Safia Nolin, Louis-Jean Cormier, les Sœurs Boulay, Claude Pelgag et des dizaines d'autres y ont fait des albums depuis. Mais disons que cette année-là, le studio n'est pas tout à fait prêt à recevoir des artistes.
Mais ça a été extrêmement pénible, mais le mal aussi, parce que ça, le Wild Studio, c'était le rêve de Pierre Rémillard de se monter un studio sauvage, puis d'être sur le bord du lac, puis de faire du chalet, un endroit aussi où, évidemment, on peut habiter, manger, puis être bien. Mais là, ça, c'était son premier projet qu'il enregistrait. Et en même temps qu'il enregistrait Vulgaire Machin au Studio Wild, il y avait des travaux. Là.
Il
fallait qu'il dynamite le sous-sol pour faire des chambres puis une cuisine. Fait qu'on était constamment pris entre... Là, je me souviens, déjà, il y avait des heures où on ne pouvait pas enregistrer parce qu'il y avait des bombes, littéralement, qui sautaient partout autour du studio. Mais c'est qu'aussi, on était souvent pris dans un dilemme où Pierre nous disait « Mon gars de solage, de je sais pas quoi, arrive demain à 3 heures. Il faut que je prépare le terrain pour lui. Fait que soit vous m'aidez puis on enregistre après, ou vous partez à Montréal, puis vous revenez dans 3 jours, parce que les travaux, puis le, tu peux t'imaginer les entrepreneurs qui arrivent, puis toute l'affaire, puis nous autres, on est le groupe dans son studio qui essaie d'enregistrer. Mais ça n'avait aucun sens, fait qu'on était...
On pelletait de la roche.
On faisait des travaux. Nous, fait que là, on libérait Pierre de ses responsabilités d'entrepreneur pour qu'il nous enregistre notre album.
Puis cet album... Cet album-là, il a été... Ça aussi, ça a été plus long que prévu, là.
Oui, oui.
Mais tu sais, il ne nous chargeait pas pour ce que ça a été plus long, là. Mais c'était vraiment le chaos.
Puis... C'est le chaos total.
Ouais. Mm.
Aimer le mal est lancé le 19 octobre 2002 au Défunt Spectrum à Montréal. Dans l'hebdomadaire Voir, le journaliste Éric Parazelli écrit, j'ouvre les guillemets, « Si le Québec attendait depuis trop longtemps le groupe punk rock francophone qui donnerait ses lettres de noblesse au genre, les Vulgaires Machins, avec Aimer le mal, viennent de prendre une sérieuse option sur le titre. » Fermez les guillemets. On peut dire que les attentes sont élevées.
Ça a été l'album où on a pu ne faire que de la musique dans la vie.
C'est là qu'on
a décidé.
Ça en
dit long, là. Il y a eu une période où le groupe nous demandait trop de temps et d'énergie pour qu'on puisse garder nos emplois à côté, mais on ne faisait pas encore assez de sous avec le groupe pour ne faire que ça. Mais cette transition-là n'a pas duré longtemps, puis ça s'est devenu possible avec Aimer le mal de faire que de la musique.
Tout de suite, quand l'album est sorti, fait c'est dire que ça a été bien reçu parce que tout de suite, les shows se sont enchaînés, puis ça n'a pas arrêté pendant 3 ans, en fait.
C'était pas les gros chars, hein. On vivait très, très, très modestement. Mais c'était ça, à quelque part, l'objectif. Concrètement, pour nous, c'était pas une idée de succès puis de « faut gagner un Félix » ou je sais pas quoi. L'idée, c'était « faut qu'on soit assez populaire pour qu'on puisse faire juste de la musique. Tu » sais. Puis avec Aimer le mal, ça s'est concrétisé. Mais là, c'est ça, on vivait en colocation, on était 5 dans un loft...
On passait les flyers, on allait mettre des posters
on
sur les posters.
On faisait que ça, là, à journée longue, s'occuper de
on
notre groupe.
On faisait tout.
On imprimait nos chandails. Avec Indica, on a toujours eu des contrats de licence, fait qu'on avait une grande liberté. Les bandes maîtresses nous appartenaient. Indica, à cet égard-là, et tout à leur honneur, c'est vraiment des partenaires plus qu'une compagnie de disques qui chapeaute un projet, là. Fait qu'on était bien positionnés pour arriver
à en vivre.
À en vivre. C'est vraiment excitant de voir cette évolution-là. L'intérêt aussi se déployer. Malgré le fait qu'on était quand même un band considéré comme la marge, là. Le directeur général des élections demande ma participation. Allez voter comme une pauvre. On sentait que la popularité qu'on gagnait imposait un peu à l'industrie culturelle de nous trouver une place à quelque part parce que là, ça devenait un petit peu criant, là.
Un vote de moi, le mien. Franchis-nous un gros char de marbre.
En atteignant un public de plus en plus grand, les Vulgaires Machins arrivent à exposer leur vision du monde. En tant qu'auteur principal des chansons, Guillaume veut créer des discussions, alimenter des débats.
On sait que nos chansons sont beaucoup dans les écoles aussi. Il y a beaucoup de profs qui font... qui étudient les textes. Puis ça pour moi, ça prouve que notre band est vivant. Puis, tu sais, même avec maintenant, ça se fait encore. Fait que ça, je suis contente que ça fait partie de l'éducation. Puis, tu sais, le monde qui vient nous dire, là, mon enfant a écouté ça, là, faut que je parle avec lui du suicide ou de... Fait que ça, c'est un peu ça notre leitmotiv, là, tu sais, de créer des conversations,
de
changer les mentalités.
C'était pas une démarche moralisatrice où on disait, bon, là, on va vous expliquer comment ça marche.
Non, on se pose des questions.
C'était beaucoup les questions qu'on se pose, mais c'était beaucoup... En tout cas, je me remets dans cette époque-là quand j'écrivais des textes. C'était une occasion de s'exprimer. Moi, m'exprimer sur les choses qui me préoccupe, mettons, puis ça a résonné avec les gens qui écoutaient, mais c'était pas non plus... C'était dans un esprit d'échange. C'était pas dans un esprit de... Je vais vous expliquer comment ça marche, puis nous autres, on est pour ça, puis on est contre ça, puis ça, c'est bon, puis ça, c'est mal, puis ça, c'est les méchants, puis ça, c'est les bons.
Mais on en a pris conscience quand les gens venaient nous dire « Ah, je me sens c'est plus ça. Seul, puis vous me faites du bien. »
C'est que ça a trouvé un écho immense. Puis encore aujourd'hui, on fait des spectacles, puis c'est ça qu'on entend, c'est que... C'est des gens qui nous ont écoutés il y a 20 ans puis qui ont cette musique-là puis ces paroles-là ont fait écho avec leur réalité puis leur questionnement à eux puis ça les a suivis tout au long de leur vie. Puis aujourd'hui, ça demeure une trame sonore d'un certain nombre de questionnements puis de réflexions que ces gens-là ont de leur côté, dans leur milieu.
Un exemple de chanson qui a eu une portée assez puissante auprès du public, c'est « Triple meurtre et un suicide raté ». C'est la pièce de l'album « Aimer le mal » qui est la plus populaire sur les plateformes d'écoute en continu et celle qui crée encore les plus gros mosh pits dans les spectacles des Vulgaires Machins. C'est une chanson inspirée d'un familicide québécois.
Bienvenue sur la planète, ça va pas trop bien, mais c'est correct. On fêtera l'action de grands artisans, que la vie est belle. On rira dans notre barbe en remplissant le trou jusqu'au dernier coup de pelle.
Ouais, ce triple meurtre, c'est particulier parce que c'est rare que j'ai écrit des chansons en commençant par le texte, mais je me souviens d'être tombé sur le drame qu'il y avait eu à la Valtrie, puis la façon aussi dont les médias traitaient ça. Puis j'avais décidé, on the spot, d'écrire une chanson là-dessus. Puis je me souviens là, d'avoir fermé la télé et d'être allé écrire la chanson. Là, après ça, je l'ai retravaillée, puis je l'ai améliorée. Mais l'essentiel de la chanson a été écrit de même en 5 minutes.
Puis je me rappelle qu'on avait joué à la chasse-galerie à la Valtrie, puis que la personne survivante de cet événement-là était venue nous voir en spectacle. Puis il nous avait parlé de cette chanson-là.
Il disait, je trouve ça dur, mais je trouve ça important d'être là.
Ouais,
c'était émouvant, ça.
Les textes et la portée sociale du Quatuor de Granby sont des éléments qui expliquent le grand impact de cet album-là. Guillaume l'a dit un peu plus tôt. Mais est-ce que Marie-Ève et Guillaume se considèrent comme des artistes cyniques?
Non, mais oui, le cynisme a servi le propos dans plein d'exemples. On pourrait sortir la discographie du groupe puis identifier des chansons qui sont cyniques mais dans la forme.
Ouais, mais c'est un personnage.
C'est ça. Je pense pas qu'il y a personne ici qui opère sur le cynisme, là. De moins en moins, en tout cas. pense pas qu'on soit autorisé à être cynique dans la vie. Surtout pas quand on a des enfants. Je pense qu'on n'a pas le droit d'être cynique. Je veux dire, on a le cadeau de la vie, je veux dire, à un moment donné, ça devient une responsabilité puis une condition humaine de trouver un angle où il y a un peu d'espoir ou au moins de l'espérance, ou peut-être idéalement de l'espérance, je sais pas, mais non, le cynisme...
À une époque, tu l'étais beaucoup dans tes textes, justement dans ton personnage, puis... Même là, aujourd'hui, on a fait le tour, tu sais, de ce personnage-là, mm-hmm. puis il est comme parti.
Oui, il a servi ce qu'il avait à servir.
Parce que dans la vie, il n'a jamais été. On s'est toujours mis en question. On a toujours cherché la lumière. On a toujours cherché le sens de la vie, même le sens de ce qu'on fait. Fait que je pense pas que le cynisme était présent pour vrai.
Dans ma société, c'est le chaos, pis c'est l'injustice. La vie est belle quand tu te casses pas le basic.
Ah, c'est un bon exemple de chanson qui arrive à un moment donné dans un parcours, pis tu fais « Ah, c'est ça que j'essaie de faire, dans le fond. » Tu réalises que ça fait 10 ans que tu bûches, tu sais, pour écrire des chansons, pis pour finir cet artisanat-là, tu sais, de faire des bonnes chansons, pis... Ces chansons-là apparaissent puis donnent un sens un peu à tout le travail qui a été fait en amont.
Le condo en banlieue, la tondeuse puis les chicanes de famille. Le câble, oui, dis-tu, le caddie pas payé, la souffleuse puis les dîners congelés.
Tu sais, t'étais vraiment inspiré parce qu'il y avait énormément de mouvements, là.
Mm-hmm.
Puis dans personnellement, puis dans le band,
ouais.
Puis de tout ce qu'on a vécu, puis...
Ouais.
Moi, en tout cas, je suis inspiré par ce qui se passe autour, puis par ce qu'on vit, puis ça a tellement été une période riche, Aimé la Malle, que ça... C'était très inspirant.
Mm-hmm.
Y'a pas juste Céline est une série balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, réalisée en partenariat avec Transistor Média et animée par moi, Fabiola Nirva-Aladin. Réalisation, Julien Morissette. Musique originale, montage et mixage, Jean-Sébastien Côté. Chargé de production, Florence Crête-Lafrenière. Recherche, Delphine Lamotte et Gabriel Thouin. Gestion contractuelle, Julie Pelletier et Marie Gagnon. Graphisme, Étienne Dicaire. Eddie Mestre, Elisabeth Laure. Chef de contenu, Ariane Gratton-Jacob. Dans cette deuxième saison, on vous propose 5 autres épisodes sur les albums marquants de la musique québécoise avec Mitsou, Hubert Lenoir, Alexandra Strelitzky, À la Claire Ensemble et Mara Tremblay. La première saison avec Richard Desjardins, Lassa Dessella, Boule Noire, Mazayen, Carquois et Fred Fortin est également disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion.
Écoutez tous nos balados sur balado.téléquébec.tv.